suis aussi dirigée par Madame Lani. Et je travaille sur la construction et la représentation des nouvelles femmes sous la République de Weimar. Et je me permets de participer à ce colloque parce que je pense que ça s'inscrit aussi dans mon cadre de recherche. Et l'objectif de mon exposé aujourd'hui consiste à donner un panorama de l'évolution des logements sociaux allemands dans les années 20 et 30. Ainsi, les débats dans les journaux qui s'interrogent sur les avantages et les inconvénients de l'habitat social. Après la Première Guerre mondiale, les métropoles allemandes constituent un pôle d'attraction pour la population active. Le ratio entre la population rurale et urbaine en Allemagne en 1919 atteint déjà 50-50. Dans la période de l'entre-deux-guerres, la croissance démographique et spatiale des métropoles n'a pas été freinée par la crise politique et les inflations. Pourtant, la situation générale des métropoles limite leur capacité à accueillir plus d'habitants. L'augmentation de la population urbaine et la pénurie des logements dans les grandes villes provoquent des problèmes sociaux, comme la dégradation du système hygiénique, le dysfonctionnement du service public, l'accroissement de la criminalité et du nombre de suicides, etc. La reconnaissance du prédicament du logement est inclus dans la Constitution de la République de Weimar, qui proclame le droit de chaque citoyen au logement, qui annonce aussi la responsabilité de l'État pour la construction des logements. En dépit de toutes les tempêtes révolutionnaires de la période pré-républicaine et toutes les forces anti-républicaines qui abritaient, Berlin, cité industrielle et commerciale, est marquée par une croissance rapide. Elle était le centre du progrès industriel et du mouvement de rationalisation qui, au cours du XXe siècle, s'est très imposé dans la vie économique. Le principe du taylorisme ne touche pas seulement le monde du travail, mais également tous les domaines de l'activité sociale. Dans ce contexte, l'esprit du nouveau Berlin a vu le jour. Il consiste à un esprit cosmopolite qui doit dépasser l'esprit de clocher bourgeois. Une classe sociale sur le déclin apprend la conquête. Le Berlin à la fin du XIXe siècle est reconnu par les contrastes sociaux. Il existe les quartiers surpeuplés de Mietkasernen qui caractérisent les misères dans l'habitat de la classe ouvrière. Ils ne sont pas les seuls à renouveler. La pompeuse architecture de Grundejahre, les années de fondation du Kaiserreich après 1871, destinée à la bourgeoisie fortunée, paraît aussi obsolète. Une nouvelle planification s'impose pour adapter à une métropole où les cultures diverses se croisent au niveau quotidien. L'orientation d'un nouveau Berlin ne se limite pas au simple dépassement de l'architecture wilhelmine. L'objectif est de transformer la notion de l'urbanisme. L'esprit de la ville mondiale se distingue de l'esprit impérial et se réalise dans les formes universelles, c'est-à-dire dégermanisées, de l'architecture. Dans le processus de donner forme concrète à cet esprit, les sociodémocrates, comme Martin Wagner, envisagent un type de Volkswohnung. Il est devenu le directeur du bureau d'urbanisme de la ville de Berlin à partir de 1920, et impose un processus de modernisation à grande échelle. Il voulait libérer l'administration de son rôle inefficace et en faire une entreprise moderne. Il considérait la ville comme une entreprise. Proprement dit, l'architecture passe au second plan. L'essentiel était l'accroissement de la productivité, la rationalisation de l'organisation municipale. En même temps, la conception de l'architecture moderne, qui trouve aussi son origine aux États-Unis, comme le taylorisme, avec le fonctionnalisme au premier plan, influence les jeunes architectes européens. L'esthétique des artistes académiques et l'esthétique des ingénieurs se conjuguent dans les nouvelles tendances architecturales. En témoignent les architectes du Bauhaus sous la direction de Gropius à Mies van der Rohe. L'abandon de la décoration et utilisation des matériaux nouveaux figurent parmi les nouvelles esthétiques architecturales et définissent les habitats sociaux construits à cette époque. La construction des nouveaux logements commence à prendre l'ampleur dès 1924. À cette année, la Wohnungsbaugenossenschaft, l'association de l'habitation coopérative, est fondée à Berlin, dans le but d'aider ses membres une allocation de logements. En 1925, en collaboration avec Bruno Taut, Martin Wagner réalise les plans de Hufeisensiedlung. Un grand quartier abrite. Ce programme est bâti entre 1925 et 1932 et devient un modèle de la construction sociale. En forme de fer à cheval, de là son nom, cette cité inaugure les nouvelles normes de la construction des logements à Berlin, qui utilisent les matériaux standardisés et préfabriqués et subissent un processus de construction rapide et peu coûteux. Dans ce projet, nous trouvons que le concept de Volkswohnung s'incarne dans les nouveaux logements dans les maisons individuelles en rangée et les petits appartements. La rationalisation caractérise les nouveaux logements sociaux et propose une solution à la pénurie des logements dans le Grand Berlin. Le concept de la Hufeisensiedlung est rapidement appliqué dans les autres projets et les autres grandes villes allemandes. Par exemple, la Cité Jardin Weißenhof à Stuttgart, le projet Neues Frankfurt et Siemensstadt à Berlin et à Francfort. Loin d'être simplement une solution confrontée aux problèmes sociaux, l'idée de ce nouveau genre de logement consiste aussi à permettre d'ordonner les relations entre la communauté et l'individu. Les urbanistes à cette époque visent à désigner un état dans lequel les besoins sociaux centraux, collectifs, partagés par chacun, seront satisfaits. Cependant, la pratique en réalité est loin de sa devise. Tout d'abord, les logements sociaux en Allemagne de l'entre-deux-guerres s'éloignent de la définition du logement social d'aujourd'hui. Selon la définition de Jean-Paul Flamand, un sociologue français, par ce terme, le logement social, nous entendrons le logement qui a bénéficié pour sa réalisation du concours législatif de financiers d'État et qui est destiné à recevoir les couches les moins favorisées de la population. Mais en revanche, les grands ensembles de l'habitat réalisés à cette époque, même si initiés par les institutions, ont reçu peu de subventions d'État ni de la mairie. Le bureau urbanisme et les associations des logements confient les projets de construction à un collectif d'architectes avant-garde et aux sociétés de construction privées comme GIHAG. Pour des raisons de rentabilité, les choix de localisation sont contestés parce qu'ils sont loin du ville-centre pour épargner le coût de construction, qui était encore au moins 10% plus élevé que planifié. La plupart des logements sont sur les marchés et dépassent largement le pouvoir d'achat de la population active. Par exemple, dans un article d'Otto Steinicke, Besuch in einer Neubauwohnung, la famille Müller se loge dans un logement social après une longue attente et décrit par l'auteur comme une gagne de loterie. Une famille nombreuse comme les Müller, avec un salaire de routier de Rémuller, un montant de 44 marks et 77 centimes par semaine, n'aurait pas pu être capable de payer le loyer d'un appartement moyen sur le marché immobilier berlinois. Ainsi, la Siemensstadt à Francfort, dans le plan destiné aux ouvriers des industries Siemens, finissent par être occupés par les familles des employés de bureau et les fonctionnaires, car les loyers étaient si élevés. De plus, les conditions de vie dans ces nouveaux quartiers ne conviennent pas toujours aux attentes de ses habitants, étant donné que les aménageurs et les urbanistes sont majoritairement des hommes. Les avis des femmes sont souvent exclus dans les décisions de la planification urbaine. Mais en même temps, ce sont les femmes au foyer qui se chargent de maintenir la maison quotidiennement. Les inconvénients en habitant le logement social sont marqués dans un article de Marie-Elisabeth Lüders, Baukörper ohne Wohnung, c'est-à-dire une construction, mais pas un habitat. Pour elle, le designer de la City Weissendorf ignore toutes les nécessités pour transformer un habitat en un chez-soi confortable. Nous constatons que les esthétiques des avant-gardistes ne satisfont pas aux besoins pratiques dans la vie réelle. Dans le débat public en Allemagne, les architectes comme Le Corbusier et Gropius sont critiqués comme les machinistes au niveau architectural et résidentiel, dans la mesure où ils sont considérés abuser la liberté d'architecte, sans songer aux besoins de base d'un habitat. Dans la critique d'Edgar Wittebro, la City Weissenhof était en fait conçue pour les intellectuels et les artistes. Les esthétiques excentriques manifestées dans le design de Le Corbusier ne correspondent pas aux besoins des habitants ordinaires. En même temps, l'architecte Le Corbusier accuse dans son ouvrage Vers la nouvelle architecture que l'esprit de la masse n'est pas arrivé à la hauteur de l'esprit du temps. C'est-à-dire que les architectes à cette époque refusent à réduire l'habitat à une maison machine ou une maison outil. Les critiques et les tensions entre les artistes architectes et la masse ont pourtant apporté des changements et l'amélioration dans le design du habitat social. Pour commencer, le nouveau design commence à privilégier les demandes de la famille. Dans les derniers grands projets, les besoins communicatifs et les services collectifs sont pris en compte. Par exemple, dans le projet Berlin-Zehlendorf, il existe une laverie centrale, une crèche et même une école primaire qui favorisent la parentalité et la formation d'une communauté assemblant les familles de masse. De plus, la planification urbaine commence à être sensible aux besoins des femmes. Déjà en 1924, Bruno Taut met l'accent sur la rationalisation de la vie quotidienne dans son livre « Die neue Wohnung, die Frau als Schöpferin », le nouveau logement, femme comme créatrice. La rationalisation de l'espace domestique, en l'occurrence des ménages, se manifeste surtout dans le projet Neues Frankfurt. L'architecte Grete Schütte-Lihotzky s'est chargé de concevoir une nouvelle cuisine pour les logements sociaux. Nous pouvons trouver beaucoup de principes généraux du Bauhaus dans son plan. Le fonctionnalisme est prioritaire, la décoration est largement simplifiée et les matériaux industriels étaient préfabriqués pour assurer une réalisation rapide et moins chère. De plus, elle-même comme une femme architecte a aussi repéré le fait que la cuisine était une pièce genrée dans une ambiance familiale. Donc, pour réaliser ce projet, elle a conduit des entretiens avec les maîtresses de maison dans le quartier. Nous pouvons dire que ce plan est un produit féministe. Elle a été conçue par une femme et convient aux besoins quotidiens des métropolitaines. L'architecte était fortement inspiré par les wagons-restaurants, dont l'espace était extrêmement restreint, et dans lesquels elle voyait l'idéal de taylorisation. Même si la cuisine de Francfort a une surface d'environ 6 mètres carrés, dans cette capsule, deux personnes étaient capables de préparer et servir des repas pour à peu près 100 couverts, puis de laver la vaisselle et ranger les plats. Pour elle, la cause principale de l'esclavage féminin réside dans les conditions de vie. Pour les employés qui sont souvent face au risque du chômage, un agencement de la cuisine rationalisé leur assure un confort nécessaire dans la vie une fois qu'elles ne sont plus actives. La rationalisation des tâches ménagères implique aussi que les femmes auront plus de temps libre pour se cultiver et se déplacer vers l'extérieur grâce à l'efficacité à la maison, de sorte qu'elles auraient plus d'occasion de développer leur propre identité, leur individualité. Comme elle a dit en 1921, d'abord il y a le travail, ensuite il y a le repos, les rapports sociaux et les plaisirs. En même temps, loger les jeunes femmes qui travaillent et vivent en solo dans la ville devient aussi un sujet social urgent, vu que le nombre des employés augmente exponentiellement. Avant la Grande Dépression, il existe environ 1 million de femmes employées à Berlin. En ce qui concerne les habitats des jeunes femmes dans la ville, les petits appartements, les studios, un variant minuscule de Fox Wohnung se situait souvent dans les quartiers commerciaux comme le Friedrichstrasse ou le Kurfürstendamm. Le projet Woga, conçu par Erich Mendelssohn, intègre les appartements dans un complexe de blocs. Souvent, les rez-de-chaussée et le premier étage étaient les salles de cinéma, des grands magasins ou des commerces, et les autres étages des habitats résidentiels. D'ailleurs, ce quartier est doté d'équipements avantageux, des communications aisées, comme il est relié avec les autres quartiers de la ville par le tram. Cet agencement facilite la commodité de la vie quotidienne. La diversité des fonctions du quartier a offert aussi plus de flexibilité, des loisirs aux habitantes. Ce projet est surnommé comme un paradis des célibataires dans le journal Aktuelles Abendblatt. Malgré tous les défauts, le bureau d'urbanisme met en œuvre de nombreuses stratégies pour concrétiser un esprit cosmopolite et assurer le confort habité pour une population citadine croissante. Durant ces dizaines d'années, plus de 50 000 unités sont bâties seulement à Berlin. Les logements sociaux dans les années 20 et 30, avec leur forme urbaine et leur fonction sociale, proposent non seulement les idées humanitaires, mais aussi les nouvelles notions urbanistiques. Avec la participation des femmes architectes et les interventions des femmes en général à la planification, les logements sociaux témoignent aussi les rapports de deux genres dans l'espace domestique et dans le débat public. À l'époque, beaucoup de critiques craignent qu'une fonctionnalisation absolue de l'habitat est destinée à un échec et à une reproduction des mythes cassènes avant la Grande Guerre. Mais à la fin, nous voyons que la conception du taylorisme n'exclut pas l'individualité. Tout au contraire, la rationalisation de la vie domestique libère les résidentes des tâches ménagères. La flexibilité dans l'encourage du habitat encourage les déplacements et incite les résidents à sortir de chez soi. Pour ces raisons, les concepts urbanistiques et architecturaux revivent après la Seconde Guerre mondiale. Les logements de l'entre-deux-guerres, même si presque tout détruit pendant la guerre, constituent les chefs-d'œuvre de l'architecture moderne allemande et les ancêtres des logements sociaux en Allemagne d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
S'est posé la question, Bruno Tau, qu'est-ce qu'il a construit à Francfort justement? Est-ce qu'il a construit, est-ce que c'est lui qui a inventé la cuisine? Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? Parce que
enfin,
là, les logements sociaux à Francfort, dans les années 20, c'est Ernst Mayr en général, il y a
oui.
plusieurs...
Mayr était le directeur du bureau d'urbanisme à Francfort et Bruno Tautt, il était employé par la société GEHAG, qui est une entreprise privée. Et il travaille principalement à Berlin pour construire les projets Onkel Traumtrüte.
Très bien.
J'ai juste une remarque que je trouve intéressante de réfléchir à l'espace, surtout l'espace public qui est complètement différent. Là, chez Bruno Tautt, dans le groupe Alizic, c'est vraiment c'est le plus important presque de tout son concept, c'est l'espace public partagé. Et ouais, c'est juste clair que quand c'est comme ça. Créer un grand contraste avec le banlieue dans la même époque.
Oui.
Oui, ça me fait penser aux travaux aussi de Jeanne sur le Rheinzaviertel, sur leur devenir à tous ces quartiers et ces égouts qui étaient destinés à un public, ou à une population plutôt défavorisée et qui deviennent maintenant prisés par des gens beaucoup moins défavorisés. Et je ne sais pas si vous avez des données précises dessus, mais c'est intéressant de voir comme cet habitat populaire est devenu aussi un enjeu d'une certaine aussi gentrification.
Oui, je pense aussi, en histoire, c'est un peu anachronique de comparer les logements sociaux à l'époque avec les logements sociaux d'aujourd'hui. Et à cette époque, les logements sociaux allemands sont des miroirs des idées politiques des sociodémocrates allemands. Et à ce moment-là, dans le plan, cette construction sociale est destinée aux couches sociales plus défavorisées, mais à la fin, ils finissent par occuper par les classes moyennes. Et par exemple, les ouvriers berlinois à cette époque, ils ont un revenu moyen 3 000 marks par an. Et dans le projet Das Neue Frankfurt, en fait, les revenus moyens des habitants à Siemensstadt comptent environ 5 000 marks. Donc il y a un grand déséquilibre entre les plans et la réalité.
Encore une fois, plus une remarque qu'une question. C'est un féminisme presque avant-gardiste, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des logiques genrées dans les appropriations d'espace public qui sont vraiment problématiques. Je trouve que la perspective que vous éclairez dans le contexte socio-historique que vous avez mis en exergue fait résonance avec les revendications féministes aujourd'hui d'une ville qui
puisse
faire aussi l'objet d'une appropriation par les femmes et pour les femmes.
Oui, c'était depuis la seconde vague du féminisme, on dit le privé et la politique. Maintenant, on vise à revaloriser les travaux domestiques.
Par exemple, il y a eu des travaux assez significatifs sur la répartition des enfants dans les cours d'école. Et comme quoi, ça infuse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des logiques déterministes ensuite qui voient le jour dans les espaces publics. En fait, en l'occurrence, ce que les travaux ont permis de mettre en exergue avec des relevés cartographiques, c'est qu'une cour d'école, 90% de la centralité de la cour est occupée par les garçons, alors que les 10% de l'espace restant est occupé par les filles qui sont positionnées à la périphérie. Voilà. et ça permet de mettre en exergue comment finalement, dans le contexte éducatif, en France, dans le contexte éducatif français, ensuite ça fait l'objet d'une intériorisation, d'une norme sociale acquise, enfin, imposée par la logique de domination masculine chez les petites filles et qu'on retrouve aujourd'hui dans les usages de l'espace public. Vous voyez, il y a quelque chose.
Et il y a aussi sur le rapport entre les architectes comme Bruno Taut à l'expressionnisme aux avant-gardes de Bauhaus, il y a l'image de la nouvelle femme qui est là et qui se traduit aussi bien en texte, en peinture, en architecture également. C'est un peu ça. Et c'est probablement c'est une raison pour l'actualité.